Page 10 et 11, dans la rubrique Histoire. Westphalie 1648, inspiration pour la paix aujourd'hui. Par Johanna Claire, militante de Solidarité et Progrès. Il y a 400 ans, l'Europe plongeait dans la guerre de 30 ans, l'une des plus abominables guerres de religion. Découvrons ce qui permit d'en sortir. En 1648, après 4 ans d'âpres négociations, sont signés à Osnabrück et Münster les traités de paix de Westphalie. L'Europe a alors perdu 60% de sa population depuis 1618. Depuis le début de la guerre de 30 ans, l'Allemagne et l'Est de la France actuelle payant le plus lourd tribut. C'est un incident local, la révolte des protestants en Bohême, qui avait mis le feu aux poudres, entraînant de proche en proche un affrontement entre toutes les puissances européennes, dans un contexte où la division et la haine entre protestants et catholiques avaient été attisées depuis bien longtemps. En instaurant les bases d'un tout nouveau système politique en Europe, les traités de Westphalie permettront de tourner la page des guerres de religion sur notre continent et poseront les fondations du droit international. Chapitre des religions, mais surtout un empire. En réalité, derrière les motivations religieuses des belligérants, la guerre était alimentée avant tout par des ambitions de conquête et d'hégémonie. Au début du XVIIe siècle, l'Europe était en effet dominée par la famille des Habsbourg, divisée depuis Charles Quint en deux branches, celle d'Autriche et celle d'Espagne, entretenue par une vieille oligarchie féodale, vivant de l'usure financière et se considérant comme héritière de l'Empire romain. Habsbourg d'Autriche était à la tête du Saint-Empire romain germanique, qui régnait sur une multitude d'entités, duchés, royaumes, villes entre guillemets libres, etc. L'arrivée au pouvoir de Ferdinand II et sa volonté d'imposer le catholicisme aux terres majoritairement protestantes de Bohême provoquent la rébellion des États luthériens du Saint-Empire, auxquels se rallieront le royaume du Danemark puis celui de la Suède. La France, quant à elle, a commencé à se constituer en État-nation sous Louis XI et Henri IV, notamment, en se basant sur la notion de domaine public. Selon ce principe, le roi de France n'est pas propriétaire du domaine royal, ni de la couronne, mais a pour mission d'agir pour l'intérêt général du royaume et de ses habitants. Encerclé par le Saint-Empire et les possessions des Habsbourg d'Espagne, elle se sait menacée et, bien que royaume catholique, s'allie aux puissances protestantes, d'abord en finançant la Suède, puis en impliquant directement ses armées sur le terrain. Chapitre « Quand la guerre devient la norme ». La taille des armées, le recours massif aux mercenaires et la spirale de l'endettement feront que les différents belligérants seront pris dans un cercle vicieux autodestructeur. Aux morts des champs de bataille s'ajoutent les massacres de civils commis par les soldats et les morts indirectes causées par les famines et les épidémies de peste, typhus et dysenterie amenées par les armées. L'incendie des maisons, saccage des lieux de culte, torture, viol, pillage sont pratiqués par les deux camps, y compris les armées prétendument libératrices. Les États en guerre manquant de moyens pour payer les mercenaires qu'ils ont engagés, ces derniers se servent directement sur les territoires qu'ils viennent de conquérir, engendrant un déchaînement de violence et de barbarie. C'est en ayant ce contexte à l'esprit que l'on peut mesurer l'exploit diplomatique que furent les traités de Westphalie. Le secret, plutôt que de considérer la paix comme la simple absence de guerre, le fait de laisser tranquille son voisin, à l'instar des précédentes tentatives de paix, ces traités posent une exigence beaucoup plus forte. Faire de la paix un principe actif qui transforme tout le reste. Leur deuxième article proclame en effet le pardon des offenses. Je cite « un oubli, une amnistie ou un pardon perpétuel de tout ce qui a été commis depuis le début de ces troubles ». Fin de citation. Dans leur premier article, c'est le principe de l'avantage d'autrui qui est entériné. Je cite « en sorte que les parties procurent l'utilité, l'honneur et l'avantage l'une de l'autre ». Fin de citation. sont ensuite détaillés les territoires et biens sur lesquels la souveraineté de chacun est reconnue, chaque État s'engageant à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres, par exemple les affaires religieuses. Chaque signataire du traité s'engage à défendre le droit des autres parties et s'interdit de poursuivre son droit par la force. En reconnaissant la souveraineté des États qui le composent, l'empereur du Saint-Empire renonce au pouvoir hégémonique qu'il prétendait exercer sur eux. Cela n'aurait pas été possible sans le génie et les efforts du cardinal Mazarin, principal ministre du roi de France après la mort de Richelieu. Dès 1642, il envoie des négociateurs à Münster. L'objectif est de faire plier l'empereur qui veut une paix blanche, où chacun garde les territoires qu'il a conquis et n'a aucun intérêt à faire venir des princes allemands de son empire à la table des négociations. La France mène alors une bataille acharnée à la fois sur le plan militaire et diplomatique et parvient finalement à imposer leur présence. De nombreuses cartes, documents et autres preuves sont fournies par chaque délégation pour asseoir la légitimité de ses revendications dans les arbitrages en cours. C'est en défendant ainsi l'avantage d'autrui, ici l'intérêt des principes allemands contre l'hégémonie habsbourgeoise, que la France parvient à ses fins. Chapitre. L'assise économique de la paix. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que Westphalie a marqué le début de la configuration de l'Europe moderne et de ses États-nations en instituant le principe de souveraineté des États, de non-ingérence dans les affaires intérieures et de sécurité collective. Le « système westphalien » entre guillemets serait ainsi basé sur l'idée de maintenir un équilibre entre les principales puissances en empêchant l'une ou l'autre de devenir trop importante. Or, cette vision universitaire passe à côté de l'intention essentielle de ces traités, ce qui permit de gagner les différentes parties au principe de la paix de Westphalie. Ce sont les perspectives de reconstruction et de développement économique qui l'accompagnaient, l'action qui était posée là les bases d'un avenir qui serait bien meilleur pour tous. Autrement dit, la concrétisation du principe de l'avantage d'autrui dans l'économie. C'est pourquoi le traité de Westphalie impliquait l'annulation des dettes de guerre et la libération des échanges le long des voies de communication naturelles. En ce sens, Mazarin constata que le Rhin et les fleuves alentours étaient mal utilisés commercialement par les princes locaux qui, en imposant des taxes exorbitantes, servaient davantage les intérêts vénitiens, hollandais et anglais, qui contrôlaient les mers, que les leurs et ceux du peuple allemand. Il fit abolir les péages sur le Rhin, la Weser et l'Elbe, puis chargea l'un de ses agents d'étudier les possibilités de canaux de jonction entre ces fleuves afin de favoriser les échanges entre les principautés souvent rivales. Cette politique inspira l'une de ces jeunes recrues qui jouera un rôle fondamental par la suite, Colbert. En invitant les scientifiques de toute l'Europe à rejoindre l'Académie royale des sciences, il créera en 1666, et en favorisant l'application de leurs découvertes à la vie économique du royaume, l'héritier de Mazarin contribuera à relever l'Europe de ce sombre épisode de notre histoire. Point final. Alors, en illustration de cet article, un portrait de cardinal Jules Mazarin, 1602-1661, portrait de Philippe de Champaigne, et une peinture du traité de Westphalie, où nous avons en légende la ratification du traité de Münster, 1648, une peinture de Gérard Terborch, où l'on voit les différents signataires du traité de Westphalie à l'époque. Et enfin, un encadré de Karel Verheyen, traité de Westphalie et annulation des dettes. Avant même de régler les disputes et les revendications territoriales, le traité s'attelle à créer les conditions mettant fin à la ruine financière dans laquelle tous les belligérants se trouvaient plongés. Les dettes, intérêts, obligations, rentes et créances financières impayables, insoutenables et illégitimes, explicitement identifiées comme alimentant une dynamique de guerre perpétuelle, sont examinées, triées et réorganisées, le plus souvent par l'annulation des dettes. l'article 13, 35, 37, 38 et 39 des traités, des moratoires ou un rééchelonnement selon les échéanciers précis aussi dans l'article 38 du traité. L'article 40 conclut que ces annulations s'appliqueront, je cite, à la réserve toutefois des sommes de deniers qui, durant la guerre, ont été fournies de bon cœur et à bonne intention pour d'autres, afin de détourner les plus grands périls et dommages dont ils étaient menacés. Fin de citation. Ceci impliquant que les dettes, ces dettes, devront être honorées. Enfin, regardant vers l'avenir et pour faire en sorte que le commerce refleurisse, le traité abolit de nombreux péages et octrois inusités et privés, ceci dans l'article 69, obstacle aux échanges de biens physiques et de savoir-faire, et donc au développement mutuel. Fin de notre encadré.